20h, la Safraise.
Valérie Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
Mille ans d'histoire. Il y a 35 ans, le 19 mai 1974, à 20h, les Français découvraient le nom du troisième président de la Ve République. Rarement une élection présidentielle a connu autant de rebondissements, ni réservé autant de surprises que celle de 1974. Jamais non plus, une campagne électorale n'a été aussi courte, puisque 35 jours à peine ont séparé l'élection de Valéry Giscard d'Estaing de ce qui l'avait provoqué, la mort du président de la République Georges Pompidou, le 2 avril 1974. Certes, tout le monde savait que Georges Pompidou était malade, mais jusqu'à la dernière minute, il avait caché la gravité de sa maladie, si bien que l'annonce de sa mort avait pris tout le monde au dépourvu, y compris celui qui allait lui succéder. Ce jour-là, Valéry Giscard d'Estaing dînait chez des amis, lorsque quelques minutes avant 22h, on lui annonçait la nouvelle en même temps qu'elle arrivait dans les rédactions de toutes les télévisions et les radios de France. France Inter, Patrick Lecoq, le lendemain, 3 avril 1974.
Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau, il est 6h. Des informations, Patrick Lecoq.
Bonjour. La France vit depuis hier soir à nouveau des heures graves. Le président de la République, M. Georges Pompidou, est mort. 21h58, sur nos téléscripteurs hier soir, la nouvelle est tombée, brutale et sèche. Suivait peu après un bref communiqué signé du professeur Vignaloux. Le président de la République s'est éteint à 21h dans son appartement du quai de Béthune. En raison des circonstances, l'Office de radiodiffusion télévision française diffuse donc un programme unique sur l'ensemble de son réseau, France Inter, France Culture, France Musique et FIP.
Et c'était le 2 avril 1974, ce qui s'appelait encore l'ORTF, annonçait aux Français la mort de Georges Pompidou. Alors, indépendamment du choc provoqué par cette nouvelle, tout le monde se demandait déjà quel serait son successeur. Car si 5 ans plus tôt, après la démission du général de Gaulle, l'élection de Georges Pompidou n'a pas été une surprise, personne en revanche ne se doutait que 35 jours plus tard, après sa mort, après la mort de Georges Pompidou, eh bien c'est Valéry Giscard d'Estaing qui prendrait sa place à l'Élysée. Frédéric Abadie, bonjour.
Bonjour.
Dans la biographie que vous venez de lui consacrer avec Jean-Pierre Corselette, vous rappelez ce jour où le destin de Valéry Giscard d'Estaing a basculé et où lui-même, d'ailleurs, dites-vous, hésitait à se présenter à l'élection présidentielle. Il était, dites-vous, partagé entre son ambition et la crainte d'un échec.
Oui, il a hésité à être candidat parce qu'il n'avait pas le sentiment d'être souhaité, d'être assez populaire. Il est vrai que les sondages, à l'époque, étaient quand même relativement mauvais pour lui. Donc il ne pensait pas avoir véritablement ses chances. Cette fois-ci, il se croyait trop jeune. Il avait 48 ans. Et donc, il était partagé entre, effectivement, la crainte de cet échec et une grande ambition. Et puis, les événements se sont un peu précipités qui ont fait qu'il est devenu, finalement, assez vite candidat.
Quand vous parlez de grande ambition, à quel moment lui est venue l'envie, le désir d'arriver à l'Élysée ?
Ça faisait déjà, sans doute, plusieurs années qu'il y pensait. Il y a sans doute beaucoup plus pensé lors d'un déplacement à Reykjavik en juin 1973, où il accompagnait le président Pompidou. Ils allaient rencontrer Richard Nixon et il a pu, dans la caravelle qui l'emmenait à Reykjavik et puis au retour, s'apercevoir de la dégradation de l'état de santé du président Pompidou. Lui-même en parle dans Démocratie française, Valéry Giscard d'Estaing parle de cette vie qui semblait s'en aller du corps de Georges Pompidou. Donc on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, il commence à s'imaginer dans la peau d'un candidat. En tout cas, quand il revient en France, il en parle à son entourage. En même temps, il ne veut pas que son entourage se lance dans la préparation d'une campagne parce qu'il ne veut pas avoir l'air d'enterrer déjà le président Pompidou, ce qui est tout à son honneur. Mais enfin, il serait quand même satisfait si personne ne se laissait prendre au dépourvu si un malheur arrivait.
Alors le malheur arrive sans que personne ne sache exactement quand il pouvait arriver. On se doutait bien, on pensait bien, beaucoup de gens imaginaient que vu l'état de sa santé, Georges Pompidou pouvait disparaître avant le terme de son mandat. Mais lorsque ça se produit, vous le dites, au fond, c'est presque son parti, les Républicains indépendants, qui le pousse, au fond, à poser sa candidature.
Tout à fait, c'est son entourage qui le pousse à être candidat. L'entourage, c'est Michel Poniatowski, c'est Michel Dornano et c'est Jean-Pierre Soisson. Disons que ce sont les trois des hommes clés qui vont faire la campagne de Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, cela dit, pour poser sa candidature, il faut faire vite. Cette mort a quand même pris beaucoup de gens au dépourvu, mais ce qui est prévu, c'est que un président doit être élu dans les 35 jours, donc c'est pour ça que la campagne est courte. Il faut faire vite sans aller trop vite. C'est ce qu'a fait peut-être le premier candidat à poser sa candidature, c'est le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, qui pose sa candidature le 4 avril, deux jours à peine après la mort de Georges Pompidou, quelques minutes après que le premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, fasse l'éloge funèbre du président de la République à l'Assemblée nationale. Et là, Jacques Chaban-Delmas pose sa candidature, il est le premier à le faire.
Tout à fait. Et on peut dire que c'est le dépôt de cette candidature qui déclenche les hostilités, puisqu'on va avoir une pléthore de candidats. Du côté de l'Élysée, il y a le tandem Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui s'agitent pour susciter des candidatures nouvelles, notamment par exemple celle d'Edgar Faure. Le but, c'est d'avoir le plus de candidatures possibles à droite pour finalement imposer un seul candidat à l'époque. Marie-France Garraud et Pierre Juillet pense à Pierre Messmer.
Le Premier ministre de l'époque. Alors, ce qui se passe, c'est que si Jacques Chaban-Delmas essaye de griller, de mettre tout le monde au pied du mur, c'est que le parti gaulliste, l'UDR, est assez divisé sur sa candidature. Il y a les Pompidoliens, notamment un ministre de l'Intérieur encore assez peu connu, qui est Jacques Chirac, qui ne veut en aucune manière d'une candidature de Jacques Chaban-Delmas, Frédéric Abadie.
Tout à fait. D'autant que Valéry Giscard d'Estaing a déjà fait comprendre à Matignon et notamment à Pierre Messmer qu'il pourrait être candidat. Donc Jacques Chirac le sait et dit à Chaban-Delmas, si tu es candidat, face à Giscard, tu vas perdre. Donc évidemment, il y a scission au sein de l'UDR. Chacun reste sur ses positions et cela va durer comme ça quelques jours.
Alors en tout cas, les gaullistes sont divisés. C'est ce qui pousse Valéry Giscard d'Estaing à poser sa candidature, le même jour d'ailleurs que François Mitterrand. C'était dans sa mairie de Chamalières, le 8 avril 1974, six jours après la mort de Georges Pompidou.
Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé, je pense encore, que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devait s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Et maintenant que chaque candidat propose sa politique et qu'à la fin, ce soit la France qui gagne.
Et c'était Valéry Giscard d'Estaing annonçant donc sa candidature à la présidence de la République. Il passe, dites-vous, le Rubicon, lançant au passage, on a entendu, une pique contre Chaban, hein, que tous ceux qui s'associent au souvenir de Georges Pompidou, attendent, j'ai voulu comme tout cela, attendre que les Français aient fait leur deuil. Sous-entendu, M. Chaban-Delmas ne l'a pas fait, il a été un peu vite. Et puis alors cette petite phrase dont tout le monde se souvient aujourd'hui, je voudrais regarder la France au fond des yeux.
Oui, s'il y a une phrase de campagne qui va rester, c'est bien celle-là. Sur Georges Pompidou, il pousse tellement loin l'hommage à Georges Pompidou que à la télévision, quand on le filme, il y a non seulement on le voit intervenir, mais derrière lui, il y a la photo du président Pompidou.
Alors, à ce moment-là, il faut rappeler qu'il n'est pas le favori. Hein, dans la majorité de l'époque, c'est quand même Jacques Chaban-Delmas, le patron de l'UDR, ça s'appelait pas encore le RPR, à l'époque, qui est en tête, et d'autant plus que l'UDR est mieux préparé que lui. Les Républicains indépendants sont partis, au fond, n'ont pas été pris au dépourvu, mais disons qu'ils improvisent un peu cette campagne qui doit se faire très vite, Frédéric Abadie.
Tout à fait. En fait, les Républicains indépendants sont un petit groupe. Il y a les Républicains indépendants, les clubs Perspective et Réalité. Mais finalement, il n'y a pas d'appareil. L'appareil, c'est l'UDR qui le tient. Un UDR divisé, puisqu'il y a d'un côté, il y a toujours les chabanistes, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont contre, comme Jacques Chirac notamment. Mais ça n'est pas le seul.
Alors justement, c'est Jacques Chirac fait partie de ces 43 députés, il en est même le leader, qui vont, quelques jours plus tard, vont lancer un appel, ce qu'on appelle l'appel des 43 parlementaires, qui déclarent ne pas vouloir, enfin ça c'est implicitement dit, ne pas vouloir d'une candidature de Jacques Chaban-Delmas, et qui préfèrent une unité de candidature derrière Pierre Messmer. Autrement dit, ils abandonnent, ils lâchent en pleine campagne Jacques Chaban-Delmas.
Tout à fait. Et ces 43, en fait, ont été emmenés par Maurice Herzog, qui était... député et qui avait été également ministre dans les gouvernements de Georges Pompidou. Et en fait, c'est Maurice Herzog qui, dès l'automne 1973, s'apercevant de l'état de santé de Georges Pompidou, s'en ouvre auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Il est déjà convaincu que s'il y a un duel au deuxième tour entre Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand, c'est François Mitterrand qui l'emportera. Et pour lui, il faut un autre candidat pour la majorité. Il décide donc, avec l'accord de Valéry Giscard d'Estaing, de fédérer quelques élus autour de lui. Alors au début, il y a une dizaine d'élus, ensuite ils se réunissent régulièrement, il y en a un peu plus, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Et quand le 2 avril 1973, Georges Pompidou meurt, ils sont plus de 40. Sans chef réel à ce moment-là, mais ils sont quand même un groupe et un noyau assez solide pour être incontournable.
Et le chef, ce sera Jacques Chirac, encore une fois, je le répète, qui à l'époque n'est pas. C'est un ministre et un gaulliste parmi d'autres, et qui va prendre la tête de cette espèce de fronde contre Jacques Chaban-Delmas en pleine campagne présidentielle. Est-ce que c'est ça qui lui vaudra plus tard d'être Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing ?
Oui, en fait, Maurice Herzog s'ouvre de son initiative auprès de Pierre Juillet, qu'il connaît bien et qui est à l'Élysée. Pierre Juillet,
conseiller de Pompidou.
Le conseiller de Pompidou. Pierre Juillet, lui, réagit immédiatement au quart de tour. Maurice Herzog lui dit « il nous faudra un leader ». Juillet répond « eh bien, Chirac, c'est une bonne idée ». Il téléphone à Chirac. Chirac téléphone à Maurice Herzog et en 3 minutes racontait Maurice Herzog, l'affaire est bouclée. C'est Chirac, notre nouveau leader. Alors effectivement, il devient un leader d'un groupe de 43 qu'on pourrait appeler un groupe de traîtres. Enfin, en tout cas, c'est du moins comme cela qu'ils seront perçus au niveau de l'UDR. Cela lui permettra de gagner ses galons de Premier ministre une fois l'élection passée.
Et ça va provoquer cette défection, va provoquer un basculement de l'opinion, vous le rappelez Frédéric Abadie, parce que c'est à partir de ce moment-là que Chaban, qui était en tête des sondages, en tout cas du côté de la majorité, devant Giscard, eh bien ça s'inverse et c'est Giscard qui, dans les jours qui suivent cet appel des 43, devient au fond le candidat le plus facilement éligible pour la majorité.
Ah oui, c'est net. En 3 jours, l'opinion bascule. Chaban avait 29% d'opinion favorable, il tombe à 25. Giscard passe à 27 et il restera en tête ensuite jusqu'au bout.
Et donc incarnant mieux que Chaban l'unité de la majorité contre son principal adversaire, le candidat de toute la gauche, communiste compris, et contre lequel le 24 avril 1974, Valéry Giscard d'Estaing brandissait l'épouvantail du collectivisme, François Mitterrand.
Je suis le candidat de la gauche. Je m'engage sur les orientations du programme commun. Je cherche par ces orientations à dessiner, comme je le peux, le choix de société qui nous engage tous. et je me bats pour cela avec vous.
L'adversaire dans cette campagne, c'est le candidat du programme commun du collectivisme autoritaire en France. Il n'y en a pas d'autre. Face à ce candidat sur lequel nous gagnerons le 19 mai prochain, il est essentiel de rassembler une large majorité nouvelle. Et c'est pourquoi je veux être dans cette campagne le candidat de l'unité nouvelle de la majorité.
Et c'était Valéry Giscard d'Estaing le 24 avril 1974. Je veux être le candidat de l'unité nouvelle de la majorité. Sous-entendu, Jacques Chaban-Delmas ne peut plus l'être, il ne l'est pas. C'est moi qui peux rassembler la majorité. C'est au fond le sens, au fond de ce discours, Frédéric Abadie.
Oui, tout à fait. Il s'impose très nettement comme successeur potentiel de Georges Pompidou. Bon, il lui reste encore...
Et adversaire principal de François Mitterrand.
Et adversaire principal de François Mitterrand. Il lui restera encore à le battre au second tour. Mais enfin, pour Jacques Chaban-Delmas, c'est la messe est dite.
C'est assez terrible, d'ailleurs, parce que Jacques Chaban-Delmas perd pied. Il est victime de cet appel des 43. On ressort aussi, à ce moment-là, pendant cette campagne, c'est assez sordide, des affaires antérieures. Par exemple, en 72, le Canard enchaîné avait révélé que Jacques Chaban-Delmas ne payait pas d'impôts. On avait révélé cette feuille d'impôts. Hein, à l'époque, il faut quand même rappeler que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était ministre des Finances. Hein. Bon, mais on révèle, en fait, ce non-paiement d'impôts, c'était parfaitement légal. Hein. On rappelle aussi une affaire beaucoup plus sordide qui était la disparition de la première femme de Jacques Chaban-Delmas en laissant implicitement se colporter une calomnie selon quoi il aurait cette mort aurait été un assassinat. Enfin, c'est vraiment abominable ce qui arrive à Chaban. Plus cette campagne désastreuse, on voit à un moment donné apparaître Malraux à la télévision, Chaban mobilise Malraux pour qu'il parle en sa faveur et Malraux fait un discours complètement surréaliste.
Oui, Jacques Chaban-Delmas s'est véritablement apparu à ce moment-là comme le candidat du passé par rapport à Valéry Giscard d'Estaing qui incarnait un renouveau certain. En tout cas, il paraissait beaucoup plus moderne que ne l'était Chaban qui paraissait véritablement à bout de course.
Et qui est abandonné, c'est assez terrible, par ceux qui, quelques jours plus tôt, le soutenaient. Beaucoup de gaullistes passent dans le camp de Valéry Giscard d'Estaing pensant que c'est lui qui gagnera. Il se retrouve pratiquement seul, Chaban.
Tout à fait.
En pleine campagne, si bien que le 5 mai, un jour du premier tour, eh bien Jacques Chaban-Delmas ne recueillait que 15% des suffrages contre plus de 32 à Giscard d'Estaing, qui se retrouvait seul donc au deuxième tour en face de François Mitterrand, qui avait lui 43% des voix. Et c'est en face de lui donc que Valéry Giscard d'Estaing se retrouvait dans le premier face-à-face télévisé qui est devenu traditionnel depuis, mais qui à l'époque était nouveau. Un exercice pendant lequel, grâce à une formule devenue historique, Valéry Giscard d'Estaing allait prendre le dessus sur François Mitterrand. C'était le 10 mai 1974.
On sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat.
Eh bien, monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
Sûrement pas.
J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres.
Vous n'avez pas le monopole du cœur. 35 ans après, tous ceux qui en ont l'âge se souviennent de cette formule. Elle aussi, elle a marqué un peu l'histoire de cette campagne présidentielle, Frédéric Abadie.
Oui, parce qu'en plus, d'abord, c'était le premier débat télévisé sur une télévision française.
Hein, les
deux hommes s'inspiraient un peu de ce qui se passait aux États-Unis. Il y a eu 25 millions de spectateurs, de téléspectateurs, ce qui est énorme. Et cette formule faisait choc. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Bon, François Mitterrand lui rendra l'appareil en quelque sorte 7 ans plus tard en lui disant « Vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. »
Mais alors justement, cette victoire de Valéry Giscard d'Estaing, vous le dites, c'est d'abord le produit d'une technique politique plus que finalement d'un programme.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing a travaillé avec un polytechnicien qui s'appelait Michel Pinton. Et les deux hommes s'étaient rencontrés aux États-Unis et ils vont utiliser pendant la campagne ce qui maintenant paraît très banal, c'est-à-dire des enquêtes d'opinion
connaître l'opinion, à faire un traitement quotidien de l'opinion pour savoir où évoluer, vers quel point il faut pencher ou pas. Bon, finalement, ce sont des sondages, hein, finalement. Mais à l'époque, c'est quand même révolutionnaire. Et du coup, ça a permis à Valéry Giscard d'Estaing de coller un peu plus à l'électorat. Finalement, il n'a jamais eu que 400 000 voix d'avance. Alors, c'est peut-être cette utilisation de moyens modernes qui lui a permis aussi de remporter l'élection.
En insistant sur ce qui, aux yeux de certains, pouvait paraître comme un handicap, mais qui finalement s'est avéré être un atout, c'est-à-dire la jeunesse. Valéry Giscard d'Estaing a 48 ans à l'époque, c'est-à-dire que s'il est élu, il est le plus jeune candidat, le plus jeune, il sera le plus jeune président élu, à part, il faut le rappeler, bien avant, au 19e siècle, il y avait Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été élu président, qui était plus jeune que lui à l'époque, mais il y a eu aussi un président de Troisième République, qui était Casimir Perier, mais autrement, sous la Cinquième, on n'a jamais vu un candidat aussi jeune à la présidence de la République, Frédéric Abadie, en tout cas un candidat élu.
Effectivement, 48 ans, ça peut paraître jeune. C'est d'ailleurs toujours à ce jour le candidat le plus jeune qui ait été élu. En même temps, il faut se remettre dans la perspective de 1974. Le candidat est jeune, il a une famille jeune aussi, on le voit partout avec ses enfants. Il y a une véritable... qui colle les affiches ou qui arbore des t-shirts Giscard à la barre. Enfin, au moins les deux filles, parce que c'est vrai que les deux garçons sont un peu plus en retrait. Et c'est cette jeunesse, finalement, Valéry Giscard d'Estaing, qui pensait au départ, quand il a hésité à être candidat, que cela pourrait être un handicap, finalement, cette jeunesse devient un superbe atout. Parce que cela montre aussi que c'est une rupture par rapport à ce qui s'est passé.
Et en même temps, ça est là, et la réputation de compétence. Il est ministre des Finances, dans un contexte, il faut le dire, qui n'est pas encore un contexte de crise. Mais il y a tout ça qui joue, il y a le passé. On gomme évidemment le moment où en 1969, il avait fait voter non au référendum, ce qui avait provoqué le départ du général de Gaulle, hein, puisqu'il s'agit d'avoir au deuxième tour les voix des gaullistes, ce qui s'est produit. Cela dit, Chaban-Delmas a mis quand même plusieurs jours avant de demander à ce qu'on vote Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, les 8 jours.
En tout cas, il y a ça, il y a le style aussi. Tout ça qui allait permettre donc à Valéry Giscard d'Estaing de gagner, mais de très peu. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était il y a 35 ans, jour pour jour, le 19 mai 1974 à 20h.
20h, la Sofresse.
Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
La France a choisi son président. Vous m'avez désigné, vous-même, pour exercer cette fonction. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Vous ne serez pas déçus. Je sais que de ce jour, date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
Et c'était donc Valéry Giscard d'Estaing, le jour de son élection, le 19 mai 1974, annonçant, comme il le disait, une ère nouvelle et des changements. Et c'est vrai d'ailleurs que des changements se sont produits. D'abord des changements dans le style, dès son installation à l'Élysée. Eh bien, le style change, Frédéric Abadie.
Oui, d'abord, il arrive à pied à l'Élysée, il n'est pas en jaquette, il est en costume, il ne prend pas... La grande croix de la Légion d'honneur reste posée devant lui, il ne la met pas autour du cou. Il y a un véritable changement, effectivement, dans le style qu'on retrouvera plus tard avec la fameuse photo officielle qu'on affiche dans toutes les mairies.
Et puis alors des changements aussi dans le fond, c'est-à-dire des réformes très importantes, on a un peu oublié cette époque-là, mais enfin des réformes importantes sont prises, mais uniquement au début du mandat, du septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
Valéry Giscard d'Estaing avait demandé 500 jours pour faire ses preuves, et effectivement, pendant cette première année et demie, disons jusqu'en 1975, Valéry Giscard d'Estaing va multiplier les réformes. Et certaines, heureusement, sont toujours là et non des moindres. Alors, on peut citer le divorce par consentement mutuel, qui était une de ses premières réformes. Il y a bien évidemment l'interruption volontaire de grossesse avec Simone Veil, une réforme qui est passée très très difficilement et qui...
Oui, parce qu'elle heurtait son propre électorat.
Elle heurtait son propre électorat et on le sait assez peu, mais c'est grâce à Jacques Chirac que cette réforme est passée. Mmh. Parce que si Jacques Chirac n'était pas allé en pleine nuit à l'Assemblée nationale le soir du vote du texte, prendre les députés les plus récalcitrants un par un, quitte à les injurier, y compris même dans l'hémicycle, eh bien, il n'y aurait pas eu de réforme de l'IVG.
Il y a aussi la diminution de la majorité à l'âge de 18 ans, la suppression de l'ORTF, enfin quand même pas mal de réformes. Et puisque vous citiez Jacques Chirac était donc devenu son Premier ministre, il n'est pas resté très longtemps. En fait, cette élection, pendant ces 35 jours, il s'est passé beaucoup de choses qui ont modifié la carte politique pendant un certain temps, et notamment justement chez les gaullistes, qui perdent un pouvoir qu'ils avaient depuis 1958, et bien chez les gaullistes, un changement au fond dans la donne. C'est Jacques Chirac qui en devient le leader, puisqu'il devient Premier ministre. Ça, c'est assez important, Frédéric Abadi.
Tout à fait. Jacques Chirac, que certains gaullistes, au moment où il avait pris parti pour Valéry Giscard d'Estaing, voulaient exclure de l'UDR, et Charles Pasqua avait dit « Surtout pas, on en aura besoin bientôt ». Et Charles Pasqua ne croyait pas si bien dire à l'époque. Donc, effectivement, les gaullistes ont perdu le pouvoir. Ils ont... Un pompidolien, disons, à la tête du gouvernement, à Matignon. Mais il y a une redistribution des cartes avec surtout, là aussi, une nouvelle génération, parce que Jacques Chirac est jeune également. Mmh. Les deux hommes vont bien s'entendre, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, pendant cette année et demie de réformes quasi ininterrompues.
Et puis il y aura la rupture et ensuite, évidemment, un affrontement entre les deux hommes qui a duré pendant très longtemps. Valéry Giscard d'Estaing, donc, prenant des mesures assez rapidement, modifiant quand même beaucoup la société française. Et pourtant, ce septennat un peu oublié, eh bien, ça a été, dites-vous, interprété comme une parenthèse, parce que, eh bien, sept ans après cette élection, c'est François Mitterrand qui prendra sa revanche contre le même Valéry Giscard d'Estaing en gagnant l'élection de 81. C'est vraiment assez extraordinaire. Est-ce que c'était qu'une parenthèse au fond, ces sept ans de Giscard d'Estaing, Frédéric Abadi?
C'est vrai que l'histoire est assez injuste et on retiendra sans doute uniquement le fait que c'était une parenthèse. Mais pourtant, en dehors des réformes de société dont on a parlé, Giscard a quand même fait beaucoup de choses. Bon, il a impulsé notamment le programme nucléaire civil, il a lancé le maillage de la France pour le TGV. Mais il y a un côté négatif, surtout il n'a pas vu venir la crise.
La crise, oui, c'est ça.
La fameuse crise de 73, de 73, il l'avait raté.
Enfin, 73 qui a eu ses effets après, voilà. Oui.
Et donc, c'est ce qui restera surtout au passif de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, il s'est coupé assez rapidement des Français, s'enfermant à l'Élysée. Et c'est son attitude, sans doute un peu hautaine, pour ne pas dire plus, qui va certainement le perdre en 81.
Merci pour nous avoir parlé de cette élection. Je rappelle que vous êtes, que pour en savoir plus, eh bien, et sur Valéry Giscard d'Estaing, je recommande la lecture de la biographie que vous avez écrite, Frédéric Abadi, avec Jean-Pierre Corselette, et qui a été rééditée chez Nouveau Monde Éditions. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre émission par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pierrick de Monsigny et Rémi Quincé, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jarros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le mystère de la mort de Napoléon.